Donc la dernière communication donc de la journée donc sera celle de Tim Herron, A Place Apart, le punk en Irlande du Nord, une scène translocale. Mais Tim, tu vas parler en français.
Bonsoir tout le monde. Alors je suis content de voir qu'il y a toujours du monde dans la salle. Alors en général je parle en anglais, mais je me suis dit qu'à cette heure-ci, ce serait peut-être plus simple pour vous que je le fasse en français. En 1976, les Sex Pistols invoquent l'anarchie dans leurs textes, mais pour les Nord-Irlandais, Anarchy in the UK est bien plus qu'une chanson, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte quand même. Donc, le conflit nord-irlandais, parfois appelé les troubles, s'étend de la fin des années 70 environ jusqu'en 98 et fait plus de 3500 morts et près de 48 000 blessés, soit 2% de la population. Il s'agit d'un conflit dont les racines remontent au moins au XVIIe siècle et qui oppose deux camps. Donc d'une part, il y a les unionistes ou loyalistes qui sont fermement attachés à la couronne britannique et à la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni et qui s'identifient majoritairement à la religion protestante. De l'autre côté, les nationalistes et les républicains souhaitent mettre fin aux discriminations dont ils sont victimes depuis la partition de l'île en 1921 et créer une république irlandaise sur l'ensemble de l'île, débarrassée de toute influence britannique. Eux s'identifient majoritairement à la religion catholique. Le conflit s'envenime à la fin des années 70, à la fin des années 60, pardon, et au début des années 70, les campagnes terroristes des groupes paramilitaires des deux camps plongent le nord de l'Irlande dans le chaos. Alors le conflit redessine la géographie des grandes villes, surtout à Belfast et à Derry. Dans ce qui représente alors à l'époque le plus grand mouvement de population en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreux quartiers sont transformés et deviennent exclusivement catholiques ou protestants. Des murs sont construits pour séparer les quartiers et les communautés, donc vous le voyez ici, les fameux murs de la paix, « peace lines ». La mixité culturelle disparaît, laissant place à un durcissement des mentalités et des positions et à un climat de méfiance et de peur. Alors que dans les années 60, jeunes catholiques et protestants se côtoyaient dans les cafés, cinémas et salles de concert. Belfast, capitale irlandaise du rock, est délaissée par les artistes internationaux après l'assassinat par des paramilitaires loyalistes de plusieurs membres du groupe irlandais The Miami Showband en 1975. Et les groupes locaux privilégient à partir de ce moment les salles situées dans leur propre communauté. Désormais, même la musique populaire ne parvient plus à rassembler protestants et catholiques en un seul endroit, jusqu'à l'émergence du punk en 1977. Soudain, des centaines de jeunes issus de ces deux communautés que tout semble opposer se retrouvent semaine après semaine dans quelques bars à Belfast, à Derry ou ailleurs pour partager leur passion du punk rock. Contre toute attente, des liens de camaraderie et d'amitié se tissent. Mais ce n'est pas le récit de ces relations intercommunautaires exceptionnelles que je vais dresser aujourd'hui. Je ne vais pas non plus expliquer comment une scène ou des scènes punk ont pu émerger en Irlande du Nord. Je vais plutôt m'intéresser au punk nord-irlandais en tant que scène translocale, c'est-à-dire, selon la définition du sociologue Andy Bennett, une scène qui interagit avec d'autres scènes similaires, mais éloignées géographiquement, par la circulation de groupes, de fanzines et de fans. Le sociologue Paul Hodgkinson précise que tout en étant influencé par des considérations locales ou régionales, les scènes translocales participent de réseaux médiatiques et commerciaux nationaux, voire internationaux. Je soulignerai d'abord brièvement ce que les scènes londoniennes et nord-irlandaises ont en commun avant d'évoquer certaines des spécificités locales de la scène nord-irlandaise. Si l'on compare superficiellement les scènes londoniennes et nord-irlandaises, on constate peu de différences. On retrouve la même esthétique, la même culture du DIY, les mêmes caractéristiques subculturelles. Les tenues évoluent en parallèle, les expérimentations des premières années, pensez au Bromley Contingent à Londres, cédant la place à un look plus homogène au tournant de la décennie, doc, veste en cuir, crête. Le collage, le détournement d'images, la typographie des fanzines se ressemblent tellement qu'il serait difficile, à partir d'une analyse purement formelle, de distinguer un fanzine anglais d'un fanzine nord-irlandais. Même les textes des chansons semblent peu s'écarter des codes punk qui se cristallisent rapidement à Londres, avec au départ une parole de révolte qui est existentielle et esthétique, puis une politisation du discours avec l'émergence de l'anarcho-punk, du Oi et d'un courant d'extrême droite. Ces résonances ne sont pas surprenantes dans la mesure où l'Irlande du Nord, depuis sa séparation d'avec le reste de l'île en 1921, s'intègre de plus en plus dans la métropole. N'oublions pas non plus que l'Irlande est dès le XVIe siècle, dès le XIIIe siècle, si l'on compte l'invasion anglo-normande, une colonie anglaise. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est encore plus fortement liée à la Grande-Bretagne à cause de l'État-providence mis en place par le gouvernement travailliste, ce qui sort une partie de la population de la misère, transforme l'Irlande du Nord en société de consommation et de loisirs, et par la même occasion creuse davantage le fossé avec une République d'Irlande, donc au sud, encore rurale et conservatrice, et où par exemple la censure culturelle est imposée par un État très proche de l'Église catholique. Puisque les Nord-Irlandais ont accès aux mêmes chaînes télévisées et radiophoniques que les Anglais, ainsi qu'aux mêmes titres de presse, pensez Enemy, Sound, Melody Maker, les références culturelles et musicales populaires sont largement partagées. Par ailleurs, beaucoup de jeunes qui veulent poursuivre leurs études dans le supérieur partent dans les universités en Grande-Bretagne plutôt que de rester en Irlande. Les étudiants servent alors de relais entre les scènes musicales et phénomènes culturels des deux régions. Ils ramènent de nouveaux disques, par exemple, ou des vêtements achetés dans la boutique Sex ou CD Chineries à Londres. Pourtant, malgré cette proximité culturelle, et je n'ai donné que quelques exemples, le punk qui émerge en Irlande du Nord n'est pas une copie carbone de la scène londonienne. Les principaux tabloïds britanniques publient des éditions nord-irlandaises et leur couverture sensationnelle et moralisante du punk choque les parents mais fascine des centaines de jeunes qui décident d'émuler les voyous du rock dont ils peuvent suivre les mésaventures dans les pages du Daily Mirror ou du Daily Express. Par conséquent, de nombreux punks nord-irlandais se montrent plus royalistes que le roi ou la reine. Par exemple, le rituel du crachement sur les groupes sera pratiqué avec plus de virulence et pendant bien plus longtemps à Belfast qu'à Londres, à un tel point que pendant un concert des Adverts à Belfast, la bassiste Gay Advert quitte la scène et elle accepte de revenir mais reste planquée derrière les amplis pour se protéger de l'intensité des crachats. Alors cette pratique hyperbolique du crachat ou du gobbing en anglais sur la scène nord-irlandaise est une manière de démontrer que l'on est aussi punk ou encore plus punk à Belfast qu'à Londres. La scène nord-irlandaise est donc colorée par la rivalité traditionnelle entre nord-irlandais et anglais. C'est une relation ambiguë. On admire les groupes anglais mais on les raille lorsqu'ils font signe de profiter de la situation. Comme les membres des Clash sur la photo ici, qui se vont photographier devant des fils de fer barbelés et des fourgons blindés pour consolider leur réputation de héros prolétaires. Ou par exemple, lorsque ces groupes anglais paraissent prétentieux ou condescendants. Il faut savoir que le péché capital en Irlande, c'est l'outrecuidance, la vantardise, et c'est pour ça que Bono et U2 sont détestés en Irlande plus que dans n'importe quel autre pays. Cette rivalité que l'on trouve entre d'autres scènes britanniques, entre pensez Manchester et Liverpool par exemple, ou le Nord et le Sud, est compliquée en Irlande du Nord par les relations historiques particulières qu'elle entretient avec l'Angleterre. Elle est par ailleurs liée à la problématique de l'authenticité, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais en bref, les Nord-Irlandais estiment qu'ils ont de meilleures raisons que les Anglais d'être punk, puisqu'eux ne font pas que parler d'anarchie, ils en font l'expérience au quotidien. Alors le conflit laisse bien sûr sa marque sur la scène translocale nord-irlandaise. La solidarité des punks catholiques et protestants est réelle, mais fragile. Par exemple, lorsque Joe Strummer, lors d'un concert à Belfast, en partant d'une bonne intention, porte un t-shirt qui indique son soutien aux grévistes de la faim républicains, cette solidarité est mise à l'épreuve. En Angleterre, les punks peuvent se battre pour une question d'équipe de foot, mais en Irlande du Nord, les lignes de fracture sont beaucoup plus profondes. Ensuite, il y a la violence directe liée au conflit. Les punks sont particulièrement exposés car ils sortent de leur quartier, investissent le centre-ville et le font aussi bien la nuit que pendant la journée. Il y a toujours le risque qu'ils soient pris pour cible. Il faut savoir que Belfast, la nuit, est fermée par un grillage en fer vers 18h-18h15 à cette époque-là. Il y a quelques cas où les paramilitaires interrompent des concerts avec une arme à feu, profèrent des menaces de mort ou passent à tabac des punks, mais la plupart du temps ils s'intéressent peu à ces jeunes, ils ont d'autres chats à fouetter. La violence à laquelle fait face les punks provient plutôt de leurs pères, des jeunes hommes issus de quartiers populaires, souvent au chômage, qui défendent farouchement des valeurs sociales ou des formes de masculinité traditionnelles. En Irlande du Nord, on surnomme ces jeunes hommes encore aujourd'hui les Spider-Men ou simplement Spides, l'étymologie du terme n'est pas certaine. Ce phénomène existe dans les villes provinciales de la Grande-Bretagne également, sous d'autres noms, mais en Irlande du Nord, cette hostilité à toute expression de la différence se redouble d'un esprit communautariste. Les Spides contrôlent les frontières de leur communauté. Le quotidien en Irlande du Nord est marqué par le déchiffrage de codes qui portent une charge symbolique considérable et que tout le monde connaît implicitement. Une couleur, un slogan, un vêtement, une adresse, l'équipe de foot que l'on supporte, un prénom ou un nom, ou encore la prononciation du consonne peuvent indiquer que vous êtes catholique ou protestant. Or, les punks jouent avec les codes et remettent en question les frontières entre communautés nationalistes et loyalistes par leurs pratiques et par l'esthétique qu'ils adoptent. Je n'ai le temps de citer qu'un exemple. Le single God Save the Queen des Sex Pistols, dont la sortie coïncide, comme vous le savez, avec le jubilé de la reine, sera interprété par les loyalistes comme une attaque sur la monarchie, alors que certains nationalistes le perçoivent initialement comme une apologie du régime. Donc les punks sont en gros tabassés par les deux côtés. En Angleterre comme en Irlande, le punk détourne les symboles et subvertit les grilles de lecture, mais le fait de porter un t-shirt sexe avec l'effigie mutilée de la reine n'a pas la même portée à Belfast qu'à Londres. Alors à ce propos, beaucoup de punks nord-irlandais que j'ai interviewés m'ont expliqué que leurs parents, même s'ils étaient choqués par l'iconoclasme du punk, ont toléré ou même encouragé la participation à cette scène. Il vaut mieux avoir un enfant punk et vivant que paramilitaire et mort. Alors, en partie pour les raisons que nous venons d'évoquer, les punks nord-irlandais ont tendance à éviter de faire référence au conflit dans leurs textes. À part la scène anarcho-punk, protégée et car implantée dans un quartier étudiant et donc mixte de Belfast, seuls Stifle and Fingers parlent réellement des troubles, mais eux passent l'essentiel de leur temps à l'extérieur de l'Irlande, et les punks nord-irlandais leur en veulent toujours. Et leurs premiers singles, d'ailleurs, ont été écrits par un journaliste anglais. Donc les singles les plus engagés, qui font référence explicitement au conflit, ne sont pas écrits par les membres du groupe eux-mêmes. Les textes des punks nord-irlandais traitent souvent des mêmes thématiques que leurs congénères anglais, mais il y a une différence de taille, l'importance que prend la question de l'amour et du plaisir. Bien que de nombreux groupes punks de la première vague soient traversés par une certaine sensibilité pop, les Ramones, Blondie aux États-Unis, les Damned, Generation X, Penetration et les Buzzcocks en Angleterre, cette influence est plus importante encore en Irlande du Nord. Cela est lié à la nécessité, pour leur propre sécurité, d'éviter un discours trop controversé dans le contexte de relations intercommunautaires fragiles, ainsi qu'au désir de créer un imaginaire où ils peuvent échapper, ne serait-ce que l'espace d'un concert, à leur quotidien marqué par le conflit. Par ailleurs, les membres des premiers groupes punk en Irlande du Nord, les Undertones et Derrish, Rudy, malheureusement pas très connu aujourd'hui, et les Outcasts à Belfast, apprennent l'apparition du phénomène punk dans les pages de la presse musicale et se constituent en groupe avant de vraiment connaître les codes musicaux du punk londonien, puisqu'ils ont difficilement accès aux disques. Leur influence plus immédiate sont donc les groupes new-yorkais, les Ramones, les Dolls surtout, le glam rock, Bowie, T-Rex, et le pub rock, donc Dr. Feelgood et Eddie and the Hot Rods, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, se produisent tous deux en Irlande du Nord en 1975. La sensibilité pop du punk rock nord-irlandais s'explique également par l'histoire de la musique populaire irlandaise qui est marquée par l'importance des show bands, ces groupes qui, à partir des années 50, se produisent dans les dancing et salles paroissiales de toute l'île et jouent des reprises fidèles mais aseptisées des derniers hits britanniques et anglais, parfois sous l'œil vigilant du curé. Stifle and Fingers est, avant de devenir punk, un showband de heavy metal qui s'appelle Highway Star, et l'image des gentils garçons des Undertones n'est pas sans rappeler les postures bon enfant et consensuelles des showbands. Alors bien sûr, le punk est loin d'être consensuel dans les sociétés occidentales des années 70. Son iconoclasme marque une rupture avec l'homogénéité vestimentaire et la complaisance musicale qui règnent dans les villes provinciales de la Grande-Bretagne et qui sont ancrées encore plus fermement en Irlande du Nord. Mais le punk est également vécu comme une atteinte à la morale par certains segments de la société. Or, l'Irlande du Nord des années 70 a été décrite comme la région d'Europe occidentale où l'emprise de la religion est la plus forte, à l'exception de la République d'Irlande. Les institutions religieuses, l'Église catholique ainsi que les nombreuses associations protestantes et notamment évangéliques, continuent d'exercer une influence considérable. Même parmi les jeunes, les attitudes concernant les mœurs sexuelles restent conservatrices. En 78, les adolescents nord-irlandais sont plus enclins à désapprouver les relations sexuelles avant le mariage que leurs pères en Angleterre. Mais avant tout, c'est le corps des femmes et des personnes LGBT qui sont contrôlées. Marc Boulet, un Français qui fréquente la scène punk à Belfast à l'époque et qui est le premier à avoir organisé un concert des Outcasts en France, au Gibus, souligne le fait que ses amis catholiques en Irlande ont tendance à être beaucoup plus conservateurs que les protestants pour des questions de mœurs et que les jeunes femmes ne sont pas autorisées à sortir en boîte de peur qu'elles ne perdent leur virginité. Les femmes n'ont pas accès légal à l'avortement, c'est encore le cas aujourd'hui, et l'homosexualité est seulement dépénalisée en 1982, donc plus de 10 ans plus tard que dans le reste du Royaume-Uni. Par ailleurs, le brouillage des frontières par le corps queer des punks est sanctionné. De plus, et comme ailleurs, le punk va permettre, dans une certaine mesure, de rassembler les sexes, et ce loin du contrôle des parents, de l'école ou des églises. Dans les années 70, les femmes irlandaises, ou en tout cas les jeunes femmes irlandaises de bonne réputation, ne fréquentent tout simplement pas les bars ou les pubs. Et pourtant, des jeunes femmes sont présentes dans la scène punk nord-irlandaise et y participent. Elles ne sont pas là simplement en tant que petites amies, elles sont elles-mêmes punk. Cette forme d'amitié entre les sexes est alors plutôt rare. La place relativement importante donnée aux femmes dans les différentes scènes punk de la Grande-Bretagne constitue en Irlande du Nord, la société la plus conservatrice et la plus religieuse de tout le Royaume-Uni, une transgression importante. Alors voilà quelques-unes des spécificités, donc je conclue, des spécificités de la scène nord-irlandaise. Il y en a d'autres que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais nous l'avons vu, si le punk tel qu'il émerge dans cette région située aux marges de la Grande-Bretagne intègre de nombreuses caractéristiques de la scène londonienne, il ne s'agit pas pourtant d'un phénomène purement mimétique. Le punk londonien reste une référence, voire même la référence, mais il s'agit d'un modèle qui, loin d'être appliqué tel quel en Irlande, est façonné par les considérations locales. Je crois que l'on peut dire que les scènes londoniennes, nord-irlandaises, mais aussi françaises, suisses, belges, allemandes, font partie d'un même paradigme. J'espère que nous avons donc pu montrer que la subculture punk nord-irlandaise est donc translocale, dans le sens où elle participe d'un phénomène culturel national et international, tout en s'inscrivant dans un contexte culturel, social, économique, historique et politique, local et spécifique. Merci.